trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 16 et on va parcourir ensemble les versets 19 à 31.
Ça fait encore celui-là comme ça on va être sûr que ça marche.
On va donc lire ensemble cette parabole dans Luc chapitre 16, ce sera les versets 19 à 31. Ce passage, cette parabole a été donnée par Jésus. Jésus souhaitait enseigner ce qu'on pourrait appeler la gestion des biens matériels. Que faire des ressources que nous avons à notre disposition, les ressources terrestres, notre argent, notre temps, toutes ces choses qui font la vie de tous les jours. Jésus a voulu enseigner ce thème parce qu'il est très important. On va le voir notamment aujourd'hui. Et autour de notre texte, notre parabole d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs la parabole de l'homme riche et de Lazare, une parabole que vous connaissez peut-être, probablement, que vous avez peut-être déjà lue, Jésus nous donne d'autres enseignements et d'autres paraboles au sujet de la gestion de ses biens matériels. Si vous tournez la page avant, au début du chapitre 16 ou à la fin du chapitre 15, vous verrez deux autres paraboles qui traitent de ce même sujet, la gestion des biens matériels. Donc, trois paraboles que Jésus donne, et nous allons nous pencher sur la dernière. Malgré tout, très simplement, j'aimerais vous rappeler, vous donner quelques éléments de ces deux premières paraboles. La première, vous la connaissez peut-être aussi, c'est celle du fils prodigue, une parabole assez bien connue. Un fils qui va réclamer son héritage, qui va s'enfuir de la maison, tout dilapider et revenir les mains vides. Dans cette parabole, Jésus enseigne que notamment le fils gaspille les biens de son père et qu'au final cela le mène à sa ruine. La parabole suivante, c'est celle peut-être un peu moins connue de l'économe malhonnête. Un homme qui doit gérer les biens de son maître, mais qui va dilapider lui aussi des biens. Il dilapide donc les biens de son maître, et il va ensuite faire quelques arrangements avec des hommes pour se faire bien voir et essayer de préparer sa vie d'après, une fois que ça aura tourné au vinaigre avec son maître. Parabole assez étrange, assez difficile à appréhender, qui nous montre donc un intendant malhonnête qui gaspille les biens de son maître. Ici, dans la parabole que nous allons lire ensemble ce matin, la parabole de l'homme riche et de Lazare, nous voyons cette fois un homme qui va gaspiller son propre argent. Il va gaspiller son propre argent en le dépensant à outrance pour lui-même. Pourquoi est-ce que Jésus a donné ses enseignements sur la gestion des biens matériels? Pourquoi cette parabole en particulier de l'homme riche et de Lazare? Vous savez probablement que lorsque Jésus enseignait, il y avait un public mixte devant lui. Il y avait à la fois ses disciples, les plus proches, qu'il enseignait, mais il y avait souvent, la plupart du temps, d'autres témoins. Il y avait parfois la foule qui était là pour écouter, il y avait parfois les pharisiens, les sadducéens, qui étaient aussi là pour écouter, voir ce que disait ce prophète qui posait problème. Et Jésus s'adresse à cette foule, à cette situation, avec ses différents publics mixtes. Et ici, dans cette parabole de l'homme riche et de Lazare, Jésus veut interpeller notamment, particulièrement, les pharisiens et les sadducéens. Parce que si on prend juste quelques paragraphes avant le début de notre parabole, nous lisons donc dans Luc 16, verset 14, « Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui, de Jésus. » Pour eux, en entendant la parabole du fils prodigue et de l'économe malhonnête, cela les fait rire et se moquer de Jésus. Ces deux paraboles mettent en situation effectivement des personnes qui vont gaspiller des biens matériels, de l'argent, et qui vont se retrouver plongées dans des situations assez désastreuses. Le fils finit par mendier sa nourriture, alors qu'il est quand même le fils d'un riche propriétaire. L'économe malhonnête va perdre son emploi et se retrouve à devoir essayer de s'arranger pour préparer sa situation à venir. Tout cela passe au-dessus des pharisiens et des sadducéens. Parce que eux, ils sont au-dessus de tout cela. Eux, ils sont bon chic, bon genre. Ils ont une vie bien rangée. Ils ne gaspillent pas les biens matériels. Et c'est là que Jésus nous donne cette parabole. Il veut interpeller particulièrement les pharisiens parce que ce n'est pas parce que les choses vont bien dans l'apparence, ce n'est pas parce que l'on présente bien que nécessairement tout va bien avec le Seigneur et nécessairement que nous sommes prêts pour l'avenir. On va commencer à lire notre parabole, Luc chapitre 16, déjà les versets 19 à 21. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Voilà le début de notre parabole, très joyeuse pour l'instant, où nous voyons deux vies totalement opposées. Deux hommes nous sont présentés par le Seigneur Jésus. En premier, Jésus va parler d'un homme riche, quelqu'un qui ne se refuse rien, quelqu'un qui mène la belle vie, quelqu'un qui vit en fait dans l'opulence. Chaque jour, il mène joyeuse et brillante vie. Il n'y a aucun souci pour lui, aucun malheur ne tombe sur sa tête. C'est une vie que l'on pourrait envier. Lorsqu'on voit ce rapide descriptif en un verset, on peut se dire « Quelle chance cet homme ! J'aimerais bien être à sa place. » Je ne sais pas vous, peut-être que c'est que moi. Hein. Mais c'est une vie que l'on pourrait envier, se dire « Ça, c'est un homme qui a réussi sa vie, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. C'est quelqu'un qui n'a pas gaspillé ses biens matériels. » Donc, au niveau de Jésus, Jésus va forcément dire « ça c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a su faire ce qu'il faut, nécessairement. » C'est forcément la vie d'un homme qui est béni par Dieu. Nous sommes, je vous le rappelle, dans le contexte de l'Ancienne Alliance. Jésus s'adresse à des personnes qui ont appris, ont vu, ont connu que lorsque l'on mène une vie digne de Dieu, lorsque l'on respecte ses commandements, eh bien en retour, Dieu nous bénit. C'est le rythme qui est donné dans l'Ancienne Alliance. Il est donc tout normal pour eux de penser dans un premier temps, mais on voit là un homme de Dieu, quelqu'un qui ne manque de rien, quelqu'un qui forcément a une piété incroyable. De l'autre côté, un deuxième personnage, qui lui est nommé, l'homme riche n'est pas nommé, vous avez peut-être vu, l'autre personnage lui est nommé, il s'appelle Lazare. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne mène pas la même vie. Lazare, de son côté, est un pauvre. Il est couché devant la porte de cet homme riche, ce même homme. Et lui, on peut dire qu'il vit dans la tourmente matérielle. On voit qu'il manque de tout. Il est obligé de mendier devant la porte, dehors, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Et on voit même qu'il est couvert d'ulcères. Il y a donc un aspect de maladie, d'infirmité physique qui est présente. Et en plus de ça, on voit que ses désirs se portent vers la table du riche et il aimerait bien pouvoir ne serait-ce que ramasser les miettes qui tombent. C'est là que nous découvrons un homme qui vit dans le dénuement le plus complet, quelqu'un qui est au fond du gouffre. Comment est-ce que Jésus pourrait compléter cette description pour montrer à quel point cet homme a tout perdu et est au fond des abîmes ? Quelqu'un qui n'a rien. Voilà la description que Jésus nous fait de cet homme, de Lazare. Une vie dont personne ne voudrait, en tout cas pas moi. Qui voudrait mener une telle vie? Qui prendrait Lazare comme exemple? Et surtout comme exemple de gestion des biens matériels, c'est notre sujet. On pourrait dire, mais cet homme-là n'a rien compris, il y a un problème quelque part. Une vie dont personne ne voudrait, pourquoi pas une vie maudite par Dieu? Nous sommes, encore une fois, dans l'Ancienne Alliance et le Seigneur est très clair par rapport à son peuple. Si vous ne m'obéissez pas, je vous maudirai. Si vous ne respectez pas ma loi, je vous maudirai. On pourrait raisonnablement dire, mais cet homme Lazare, n'est-ce pas quelqu'un qui ne vit pas selon les principes de Dieu? Quelqu'un qui est dans la maladie, quelqu'un qui doit mendier sa nourriture? Ça ne peut pas être un homme de foi. Ça ne peut pas être un homme qui connaît Dieu, qui respecte ses commandements, sinon il ne serait pas dans cette situation. Voilà les deux vies opposées que Jésus présente. Et nous allons avancer notre texte, on va lire les versets 22 et 23 qui vont apporter un éclairage supplémentaire. Verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et on s'arrête là. On s'arrête là où nous voyons dans ces deux versets deux morts totalement opposées, elles aussi. La vie de ces deux hommes n'avait rien à voir l'une avec l'autre, et leurs morts seront aussi très différentes. Mais quelle surprise pour nous ! Quelle surprise pour les pharisiens à qui Jésus s'adresse ! Le pauvre meurt, Lazare, mais il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham qui est, sans vouloir rentrer dans des explications trop longues, le lieu d'attente et de repos pour les croyants de l'Ancienne Alliance. Lorsque l'on est croyant dans l'Ancienne Alliance et que l'on meurt, on va dans cet endroit spécial, en attendant justement que Jésus accomplisse son œuvre sur la croix. C'est donc un lieu de repos, un lieu de paix, un lieu d'espérance et de saine attente, d'attente bienheureuse de l'œuvre de Jésus. Voilà où va Lazare. Et on se rend compte ici donc, on a un éclairage sur le fait que Lazare avait la foi. Lazare était un authentique fils d'Abraham, fils selon la foi, quelqu'un qui connaissait Dieu et qui avait une piété. Quelle surprise pour nous de découvrir cet homme, que on pourrait dire, c'est un cabossé de la vie. Comment quelqu'un comme ça peut connaître Dieu ? Comment est-ce que quelqu'un qui vit dans un tel dénuement peut être béni par Dieu ? Et ça nous pose aussi d'autres questions. Pourquoi a-t-il vécu cette vie difficile alors qu'il avait la foi ? Pourquoi Dieu ne l'a pas béni comme l'homme riche s'il avait vraiment la foi ? Jésus nous montre ici que l'apparence est parfois trompeuse. Ce n'est pas parce qu'on présente bien que nécessairement tout va bien à l'intérieur de notre cœur. Une réalité qui est percutante pour les pharisiens et qui pour nous aussi est percutante. Ce n'est pas parce que nous sommes parfois des cabossés de la vie, nous le sommes tous, ce n'est pas parce qu'on vit dans des difficultés que nécessairement Dieu ne porte pas un regard favorable sur nous. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti, je trouve, dans nos prières tout à l'heure, de voir à quel point nous sommes parfois impuissants, nous sommes faibles face à notre péché, nous avons besoin de l'aide du Seigneur, et le Seigneur nous la donne. Le Seigneur porte un regard favorable sur ceux qui croient en lui, que l'on soit un cabossé de la vie ou qu'on mène une vie tranquille. Les apparences sont parfois trompeuses, et pour ce Lazare, c'est la grande surprise. Il appartient au vrai peuple de Dieu, le peuple spirituel de Dieu, et il entre dans le lieu de repos. Pour lui, les souffrances sont finies. Mais, lorsque nous voyons notre deuxième homme, cette deuxième mort, pour lui, les choses sont bien différentes. Pour lui, il meurt et il est enseveli, l'homme riche. Il est conduit dans le séjour des morts et il lève les yeux. Il est en proie au tourment, Jésus nous dit très clairement, et il voit de loin. Il est éloigné, mais il voit quand même Lazare qui est dans le sein d'Abraham. Et il voit même Abraham avec lui. Lazare est auprès d'Abraham, alors que lui souffre de son côté. C'est là que nous voyons, encore une fois, quelle surprise, un éclairage sur l'impiété de cet homme riche. Cet homme riche, il n'est pas emmené dans le sein d'Abraham. Ce qui nous montre très clairement qu'il ne connaît pas l'Éternel. Ce n'est pas un homme pieux, un homme qui connaît le Seigneur. Il n'est pas porté par les anges dans le lieu de consolation et de repos, mais il est en proie au tourment, séparé de Dieu, séparé d'Abraham et du sein d'Abraham. Quelle surprise ! Quelle surprise pour cet homme ! Lorsque nous voyons ces deux situations, vous avez probablement remarqué qu'on voit une inversion des rôles. Au début, de notre texte, eh bien, on voyait ces deux hommes, l'homme riche pour qui tout va bien, Lazare pour qui tout va mal. Une séparation entre eux, nette et claire. Lazare est couché devant la porte pendant que l'homme riche est à l'intérieur de sa maison à festoyer. Lazare, le pauvre, ne peut pas atteindre l'homme riche. Et ici, c'est exactement l'inverse. Maintenant, c'est Lazare qui profite de la bienveillance de Dieu dans ce lieu de repos et de consolation. Et c'est l'homme riche qui se retrouve exclu, à l'extérieur, bloqué à la porte. Il voudrait bien, il porte les regards, il voit Lazare qui est heureux et consolé, mais lui, ce n'est pas son cas. Lui, il souffre. Deux morts totalement opposées entre ces deux hommes. Et nous allons avancer notre texte, des versets 24 au verset 26, où nous allons voir deux éternités opposées. Je reprends donc verset 24. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi !» Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Deux éternités opposées. L'homme riche va s'adresser à Abraham. Il va lui adresser une requête. Il va demander à Abraham que Lazare puisse lui venir en aide. De son côté, l'homme riche souffre. Il est passé, on le comprend, d'une félicité terrestre à une mendicité éternelle. Il est mis à la place de celui qui demande et qui supplie. Et il n'est pas accoutumé à cela. Alors que de son côté, Lazare, lui, il fait exactement l'inverse. Il passe d'une mendicité terrestre à une félicité éternelle. Vous remarquerez que dans tout le reste de notre texte, il n'est plus mention de Lazare. Lazare n'est plus mentionné, il ne participe plus à l'action que Jésus décrit. Lazare, il est dans le lieu de repos, dans le sein d'Abraham, il est consolé et il est dans une bienheureuse attente. Il ne porte plus les regards vers les choses terrestres, les choses qui sont derrière lui. Tout cela ne compte plus et il n'est plus acteur dans notre parabole. C'est Abraham qui va répondre à cet homme riche qui supplie parce qu'il souffre. Il supplie, il voudrait simplement, sa demande, elle est très simple, il voudrait simplement que Lazare puisse tremper son doigt et désaltérer légèrement l'homme riche qui est en train de souffrir. C'est simplement ce qu'il demande. Vous remarquez qu'il ne demande même pas à être sauvé, il ne demande pas à être retiré de ce lieu et de rejoindre Lazare là où il est. Mais il demande simplement à ce que sa souffrance soit réduite et apaisée. Voilà à quoi il en est réduit. Parce qu'il n'a pas su gérer ses biens matériels et parce qu'il a démontré qu'il n'avait pas la foi dans le vrai Dieu, malgré les apparences. Sa situation, elle est désolante, elle est très triste. Et malgré tout, Abraham va lui répondre sans détour que c'est impossible, qu'il ne le fera pas. Qu'il ne le fera pas et que cela ne sera pas possible. Et il va commencer par interpeller cet homme riche, Abraham, en lui disant « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Lui est consolé et maintenant toi tu souffres. » L'homme riche a profité, au-delà de toute mesure, des biens terrestres qui lui avaient été confiés. Pour son propre bien-être, j'en reviens au début de notre texte, il mène chaque jour joyeuse et brillante vie. Ce que Dieu lui avait donné comme bien matériel, il l'a utilisé pour lui-même, pour son propre bien. Alors que, on aurait pu dire, Lazare était devant sa porte, l'homme riche ne manquait de rien, il était dans l'opulence. Qu'est-ce que ça lui aurait coûté de manifester un minimum de bonté envers Lazare ? Mais il ne l'a pas voulu. Il a voulu profiter pour lui-même de ses biens que lui-même a accumulés. Et notamment, c'est une des raisons qui est donnée par Abraham pour dire que maintenant qu'il est passé dans l'autre vie, eh bien, il souffre. Ce n'est pas à dire que s'il avait donné des biens matériels, il aurait été sauvé. Ce n'est pas cela que Jésus veut dire. Ce que Jésus veut faire comprendre par là, c'est que la foi s'accompagne nécessairement d'action et d'œuvre. Si nous disons que nous avons la foi et que nous n'avons pas d'œuvre, notre foi est morte, c'est Jacques qui nous dit. Et pour cet homme riche, le cas est très concret. Ce n'est pas tant parce qu'il n'a pas donné d'argent, qu'il n'a pas soutenu Lazare, mais c'est parce qu'il n'avait pas la foi qui l'aurait poussé à agir de la sorte. C'est pour cela qu'il est dans cet endroit et qu'il souffre. Et il y a une grande séparation entre cet homme riche et Lazare. Une séparation infranchissable. Nul ne peut aller d'un endroit à l'autre, dans les deux sens. C'est ce que dit Abraham. Même quelqu'un qui est dans le sein d'Abraham ne pourrait pas venir en aide à quelqu'un qui est dans le séjour des morts et qui est coupé de Dieu. Pour l'homme riche, la situation est désastreuse et elle est sans retour. Il ne peut plus rien faire. Il a beau demander de l'aide, même à Abraham, cela ne marche pas. Il n'y a plus aucune en fait échappatoire pour lui. C'est là que nous voyons aussi ce que Jésus veut enseigner, qui est très important, c'est que tout se joue de notre vivant. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, nous, aujourd'hui, ce matin. Tout se joue lorsque nous sommes encore en vie. Nous ne savons pas combien de temps notre vie va durer. Nous ne le savons pas. Mais le Seigneur nous interpelle de mettre le peu de temps que nous avons à contribution pour son royaume. En soi, aux yeux de l'éternité, nous vivons quoi ? Disons 80, 90 ans, je vais être gentil. Disons que nous vivons 90 ans. Qu'est-ce que c'est en rapport de l'éternité ? Rien. C'est une poussière. Pour nous, c'est tout parce que nous vivons cette vie. Mais ce n'est qu'un grain de poussière. Lorsque nous serons auprès de Dieu, lorsque nous serons dans sa présence, que nous jouirons de pouvoir le voir face à face, que dans l'éternité entière nous serons avec lui et que nous repenserons à notre vie terrestre, on se dira, mais c'était court. Qu'est-ce que c'était court ? Et pourtant, c'est cette petite tranche de temps que Dieu nous donne qui est la plus importante. Et c'est elle qui va déterminer quelle éternité nous allons passer. Donc non seulement cela est une interpellation pour ceux qui ne prennent pas position par rapport à Jésus, le temps est compté, et une fois que nous sommes morts, il n'y a plus rien que l'on puisse faire. Mais même pour ceux qui sont sauvés, c'est une interpellation importante de dire qu'est-ce que je veux faire de ce que le Seigneur m'a donné ici-bas. Même si ce n'est pas grand-chose, qu'est-ce que je veux faire pour le Seigneur ? Parce que mes amis, lorsque nous serons morts, nous ne pourrons plus rien faire pour le Seigneur, si ce n'est l'adorer et le louer, et c'est très bien. Mais c'est aujourd'hui de notre vivant que nous pouvons participer à l'avancement du royaume de Dieu. Le Seigneur n'a pas besoin de nous pour faire avancer son royaume, mais il veut nous utiliser pour faire avancer son royaume. Et si nous ne nous mettons pas à sa disposition, le royaume n'avancera pas. C'est surprenant, hein ? C'est surprenant. Mais Dieu veut travailler avec nous. Les choses se feront au travers de nous. Et c'est notre responsabilité de nous mettre à disposition du Seigneur. Pour en revenir à notre texte, un dernier élément que je voudrais dire, qui est quand même dramatique, vous avez remarqué comment Abraham s'adresse à cet homme riche. Il l'appelle « mon enfant ». Et là, c'est un coup dur que Jésus porte aux pharisiens qui l'écoutent, ceux qui ont ri de ses enseignements sur le fils prodigue et l'économe malhonnête. Jésus dit ici très clairement, si vous êtes descendant d'Abraham selon la chair, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez la vie éternelle et que vous êtes sauvés. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Et ça frappe fort. Encore une fois, on peut présenter tout ce qu'il faut avoir pour être bon chic, bon genre, et pour autant, l'intérieur de notre cœur peut être corrompu. Ne pas être en phase avec Dieu. Et c'est ça qui compte vraiment. Est-ce que notre cœur est en phase avec Dieu ? Peu importe ce que l'on montre aux autres. C'est la seule chose qui compte. Deux éternités totalement opposées. L'homme riche, lui, est dans un lieu de souffrance, plus aucune échappatoire. Lazare, lui, il n'en est plus question, il profite. Il est consolé, il est dans le lieu de repos. Et en avançant, on pourrait presque arrêter notre parabole ici, mais Jésus a voulu apporter encore quelque chose de plus. On va reprendre notre lecture du verset 27 au verset 31. Le riche dit « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Et c'est avec cette parole que Jésus termine cette parabole, où nous voyons ici deux moyens de salut opposés. La demande de cet homme riche, on pourrait dire, elle est assez noble. Il a compris pour lui que c'était trop tard, que c'était fini, mais lui porte les regards en arrière. Contrairement à Lazare, vous noterez une différence encore. Lui pense à ceux qu'il a laissés derrière lui, et il est rempli d'effroi pour eux, rempli d'inquiétude. Et il va donc faire cette deuxième demande à Abraham. Envoie Lazare, même pas envoie-moi, envoie Lazare. Lui est quelqu'un qui connaît les choses de Dieu, alors que moi je ne les connaissais pas. Envoie-le lui, pour qu'il avertisse ma famille. Je ne veux pas qu'il me rejoigne. Et donc, envoie-le afin qu'il puisse comprendre ce que moi je n'ai pas compris et qu'il puisse se repentir et rejoindre Lazare. C'est assez noble comme demande. Et pourtant, encore une fois, Abraham va lui dire non. Surprenant pour nous. Surprenant, à votre avis, est-ce que si quelqu'un aujourd'hui revenait d'entre les morts, est-ce que c'est quelqu'un qui aurait de l'impact ou pas du tout ? Moi, je pense qu'il aurait beaucoup d'impact. Je pense qu'il passerait à la télévision. Et vous savez, de temps en temps, j'aime bien regarder des petits articles qui sont écrits sur Internet. Et on, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on parle des fois des expériences NDE, les Near Death Experience, des fois des personnes qui ont eu un arrêt cardiaque, qui ont été déclarées mortes pendant un certain temps, quelques secondes, parfois une minute, et qui après reviennent. Et du coup, les gens entretiennent le plus grand fantasme autour de ça. Et de dire, oh, c'est quelqu'un qui est revenu, est-ce qu'il n'a pas quelque chose à nous dire ? Et il y a tout un tas d'articles autour de ça. Et je trouve intéressant de voir à quel point les hommes sont persuadés que si quelqu'un revient d'entre les morts, à son témoignage, on écoutera. Ah oui, il pourra dire les choses. Et si vraiment votre Dieu existe, si Jésus c'est vraiment une réalité, eh bien, on est prêt à l'entendre, mais il faut que quelqu'un soit un témoin. Il faut que quelqu'un nous apporte des preuves scientifiques. Et le jour où on les aura, on voudra bien croire. C'est un peu ce que l'homme riche pense ici. Et peut-être que même pour nous, on se dirait, mais quelqu'un qui ressuscite d'entre les morts, ce serait un sacré bon témoin du Seigneur. Peut-être, on pourrait se dire ça. Mais Abraham, dans son discours, lui, il n'est pas du tout d'accord. Il nous dit très clairement, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Déclaration surprenante. Pour lui, la chose est claire, même si quelqu'un revient, il ne sera pas écouté. Même s'il déclare les vraies choses de la foi et de l'évangile, il ne sera pas écouté. De l'autre côté, Abraham propose autre chose, ou plutôt il impose autre chose. Moïse et les prophètes. C'est ainsi que le Seigneur veut transmettre la foi au travers de sa parole. Parce que lorsque Jésus donne ses paraboles, lorsqu'il cite Moïse et les prophètes, il est question de l'écriture tout entière pour eux, à cette époque. L'écriture que eux avaient. Aujourd'hui, si l'on voulait actualiser cette parabole, on dirait la Bible tout entière. Voilà ce qui peut permettre à un homme de connaître les choses de Dieu. Voilà ce qui peut permettre à un homme d'accéder à l'Évangile. le témoignage que Dieu a laissé, plutôt que quelqu'un qui revient d'entre les morts, plutôt que l'expérience d'un homme qui a vu les choses. Ce que Dieu veut, c'est que l'humanité ait confiance dans les déclarations que lui-même a faites. Ce que Dieu dit dans sa parole, nous devons le croire. Si nous ne le croyons pas, nous ne pouvons pas accéder à la vie éternelle et au salut. Si nous ne croyons pas que Jésus a mené la vie telle qu'elle est écrite dans sa parole, il n'y a pas de salut, ce n'est pas possible. C'est le chemin que Dieu a voulu. Jésus est la porte étroite, on ne peut passer que par lui. Il est le seul moyen d'être sauvé. Et l'objectif premier de la Bible, de la parole de Dieu, c'est de nous montrer ce que Dieu a fait au travers de Jésus. C'est de montrer tout ce plan de salut qui culmine avec le Seigneur Jésus. C'est donc tout logiquement dans la Bible que l'on peut trouver les réponses dont nous avons besoin pour être sauvés. Voilà la grande différence entre ces deux moyens de salut, deux moyens très opposés. Le témoignage de quelqu'un qui revient d'entre les morts et le témoignage laissé par Dieu dans sa parole. Pour conclure, j'aimerais simplement rappeler que dans cette histoire, vous voyez qu'encore une fois, les apparences sont trompeuses. L'homme riche a montré qu'il n'a pas su gérer correctement les biens qui lui avaient été confiés. Tout cela a démontré qu'il n'avait pas la foi et qu'il n'était pas sauvé. Ça ne signifie pas que être riche est une mauvaise chose, pas du tout. Pas du tout. Mais que être riche, avoir des biens matériels, inclut une responsabilité devant Dieu. Même pas devant les hommes, devant Dieu. Dieu confie ses largesses, les biens, les richesses injustes, comme la parole les appellera aussi, pour que nous les utilisions à bon profit, pas pour nous-mêmes, mais pour l'avancement du royaume de Dieu. La richesse peut en fait être une source de bénédiction pour les autres, mais elle peut aussi devenir un piège pour notre âme. J'aimerais aussi dire que, certainement, on pourrait penser que quelqu'un qui revient d'entre les morts serait un bon témoin pour le Seigneur. Mais, même si c'est vrai, on voit ici, dans cette parabole, que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut. Les morts n'ont plus aucun rôle à jouer. Lazare, lui qui appartient à Dieu, à partir du moment où il meurt, il n'est plus question de lui dans le texte. Il profite et il ne porte pas les regards vers l'arrière. Tout se décide en fait de notre vivant. Et vous savez, quelqu'un qui revient d'entre les morts, cette idée selon laquelle il pourrait être un bon témoin et qu'on donnerait du crédit à quelqu'un qui a cette expérience, eh bien malgré tout, le Seigneur l'a donné. Qu'il est surprenant pour nous, de voir dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, on ne va pas lire tous les versets, mais dans Jean chapitre 11, Jésus va ressusciter quelqu'un des morts. Quelqu'un qui s'appelle, heureux Lazare, Lazare. Ce n'est pas le même Lazare, hein, ce n'est pas la même personne, mais Dieu a parfois de l'humour dans sa parole. Si vous n'en êtes pas convaincu, moi je vous le dis. Ici, un autre Lazare est ressuscité par le Seigneur. Et donc, on pourrait se dire, mais Jésus a quand même fait un miracle très important. Vous savez, dans la parole de Dieu, des résurrections d'entre les morts, il n'y en a pas beaucoup. Ça se compte sur les doigts de la main. C'est un miracle qui est très rare. Et on pourrait se dire, avec un tel miracle, forcément, Jésus va être reconnu comme étant le Messie par son peuple. Les pharisiens seront bien obligés de reconnaître qu'il est envoyé par Dieu. Mais regardez ce qui se passe. Versets 45 et 46 de Jean chapitre 11, juste après cette résurrection. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Et un petit peu plus loin, verset 53, « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » C'est ce qui va marquer un virage dans l'enseignement de Jésus. À partir du moment où il fait ce grand miracle d'une résurrection, les pharisiens vont chercher à le tuer. C'est surprenant, hein ? Le virage se fait là. Avant, ils ne l'aimaient pas, ils voulaient le discréditer, mais là, maintenant, ils vont vouloir le faire mourir, à partir de cet événement. Ainsi donc, même quand quelqu'un revient d'entre les morts, cela ne convainc pas. Cela ne convainc pas tout le monde. Et on pourrait dire, y a-t-il plus grand exemple de résurrection que celle du Seigneur Jésus lui-même ? Lui-même est mort et ressuscité, et il est resté quelque temps sur la terre avant d'aller auprès du Père. Est-ce que pour autant, lui-même, le Seigneur, est ressuscité un témoin de ce qu'il y a après la mort ? Est-ce qu'il a été écouté ? Non. Vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de conversion à partir du moment où Jésus est ressuscité. Personne ne vient à la foi suite à son enseignement. C'est très surprenant. Il est ressuscité et il confie le ministère à ses disciples. Et c'est eux, qui n'ont pas été des témoins directs de la vie après la mort, qui vont annoncer l'évangile. Et les gens vont croire par leur entremise. On aurait pu dire, mais Jésus aurait été un bien meilleur enseignant de la parole de Dieu. Une fois ressuscité, en prouvant qu'il est ressuscité, en se montrant, les gens auraient cru en lui. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Jésus n'est pas resté sur la terre, il a fortifié les disciples, il est parti. Et ce sont les disciples qui ont continué à annoncer la parole de Dieu. Tout cela nous montre que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Et combien de fois il est facile pour nous de nous dire « Je suis si peu de choses. Comment moi je pourrais témoigner de la foi ? Je suis même pas capable de résumer l'évangile simplement. » Je bafouille, je bégaye sur certains concepts importants. En quoi est-ce que je suis digne d'annoncer l'évangile ? Vous savez, hein, la dignité, c'est vrai que nous n'en avons pas devant Dieu. Quelle dignité avons-nous par nous-mêmes ? Et c'est aussi ce qui ressortait dans une de nos prières. Mais nous avons une dignité, les amis. C'est pas juste qu'on n'est pas digne, c'est que Jésus nous donne sa dignité. Nous sommes dignes de nous tenir devant Dieu. Parce que c'est la dignité de Jésus qui nous est donnée. Digne en nous-mêmes, pas du tout, mais digne en Jésus. Et c'est aussi à ce titre que nous sommes dignes d'annoncer l'Évangile. On ne peut pas se cacher derrière nos faiblesses pour dire « ben, je ne suis pas le mieux placé pour annoncer l'Évangile ». Dieu veut nous utiliser, chacun d'entre nous, pour annoncer l'Évangile. Peu importe à quel point on peut être cabossé de la vie ou bien portant, peu importe toutes nos forces et toutes nos faiblesses, nous avons chacun notre place à prendre dans le royaume de Dieu, mais nous avons aussi le choix de pouvoir résister à Dieu, les amis. Même si cela n'a pas pour conséquence une perte du salut, ne croyez pas que nous n'aurons pas des comptes à rendre à Dieu. Nous aurons des comptes à rendre, et ce n'est pas un motif de peur pour nous, mais de dire beaucoup plus. Le Seigneur veut me récompenser pour tout ce que je vais faire ici-bas. Je ne mérite pas, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Mais il veut malgré tout me bénir. Il veut me récompenser. Et la motivation, elle est pour nous de dire, mais moi je vais agir pour le royaume de Dieu et c'est Dieu qui va accomplir. C'est lui qui va faire les miracles, avec mes maigres efforts. Ça devrait nous donner envie. Ça devrait nous donner envie de voir que malgré toute notre faiblesse, Dieu bénit. Dieu révèle sa puissance lorsque nous sommes faibles. C'est aussi un autre enseignement de l'Écriture que Paul nous donne dans Romains. C'est précisément lorsqu'on est faible que l'on est fort. J'aimerais que cela puisse nous porter, que ce passage aussi nous touche pour ce dimanche, pour cette semaine, chacun. Si vous souhaitez le reprendre, le relire, Luc 16, à partir du verset 19. Nous avons des responsabilités devant Dieu. Quant à ce que Dieu nous a donné ici-bas, qu'est-ce que nous voulons en faire pour lui ? Le Seigneur va vous bénir, les amis, il va vous utiliser pour son royaume. Et vous pourrez connaître aussi la joie de voir Dieu faire des miracles dans les vies des autres. Grâce à vous. Que le Seigneur vous bénisse tous pour ce dimanche et pour votre semaine. Amen. Merci. Merci Geoffrey pour le partage de la parole. C'est toujours très riche. La parole de Dieu est vraiment incroyable à ce niveau-là. On s'en lasse jamais. Alors je sais pas si j'ai éteint juste. Hop. Ça doit être bon.
Non, là tu es encore en train de.